Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Mardi 17 mai, bonne journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Bonjour, c'est Marianne Paquette derrière le microphone. J'espère que vous allez bien. On est ensemble pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Et en deuxième partie, je vous parle d'une étude canadienne publiée hier officiellement qui montre que les antipsychotiques sont souvent utilisés abusivement dans les CHSLD du pays, et ce, bien sûr, auprès des personnes âgées, et qu'en diminuant de 40 % ces prescriptions d'antipsychotiques dans ces centres de soins, on obtiendrait de nombreux bénéfices, entre autres moins de chutes, moins de comportements agressifs et de résistance aux soins et l'amélioration de ces résidents et de leurs familles, ce qui est évidemment à considérer. C'est une étude qui est l'initiative de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, et je parlerai tout à l'heure avec sa présidente que l'on joindra du côté de Toronto, Maureen O'Neill. Aussi, ben, on poursuit l'émission sur ce thème qui est le vieillissement, et peut-être qu'on en parle autant parce qu'au Québec, ça semble assez clair et évident. Si l'on observe un petit peu autour de soi, on vit plus longtemps. L'espérance de vie va sans cesse en augmentant. Les chiffres sont là pour en témoigner. J'en parlais récemment. Le Canada arrive en 10e place au chapitre de l'espérance de vie globale, avec une espérance de vie, je vous le rappelle, de 79 ans, 79,4 là, chez les hommes, et de 83,4 chez les femmes. Toutefois, c'est une espérance de vie qui n'est pas nécessairement en santé, hein. L'espérance de vie en santé, c'est pas tout à fait concluant. On dit même que les chiffres stagnent. Si vous demandez à une personne âgée quel est le pire désagrément qu'elle a à vieillir, probablement qu'à coup sûr, là, dans les premiers éléments, elle vous dira les petits bobos, la douleur chronique, la maladie aussi. Dans le livre du docteur Daniel Minier, « Vieillir est inutile et dangereux », un titre assez accrocheur, on apprend les outils qui sont mis à notre disposition pour contrer ce processus de vieillissement, et on se rend compte que c'est possible avec de la prévention. On lui parle à l'instant, docteur Daniel Minier. Docteur Minier, bonjour.
Bonjour, Marianne.
On vous joint du côté de l'Estrie. Vous êtes où exactement, docteur Minier?
Bien, je suis à Sherbrooke. Là, je suis au bureau. J'ai fini de voir des patients. Alors, ça me fait plaisir qu'on prenne un petit ensemble.
Docteur Minier, vous êtes médecin dermatologue, justement affilié à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, auteur de ce tout nouveau livre publié chez Carte Blanche, « Vieillir est inutile et dangereux ». Un titre assez accrocheur, mais ce que je tiens à dire d'entrée de jeu, c'est que oui, vous êtes dermatologue, mais vous ne parlez pas dans ce livre de botox, de chirurgie plastique. Oui, de vieillissement de la peau, là, mais pas nécessairement que de ça, que de rides. Vous aviez envie d'aller un petit peu plus loin avec cette publication.
Oui. Et puis, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Puis, il faut dire que la peau et le corps, ça ne vieillit pas tellement différemment. Hein?
Oui.
C'est les processus de vieillissement qui vont passer par le vieillissement des cellules sont les mêmes pour la peau qui sont pour le corps.
Oui. Et c'est intéressant parce que dans votre livre, vous le dites d'entrée de jeu, lorsque l'on observe la peau des gens, les endroits qui ont été moins exposés au soleil ont vieilli moins rapidement.
Oui, mais ça, je le fais souvent remarquer à mes patients. Je dis aux gens, regardez votre peau qui a été exposée au soleil, puis comparez-la à la peau qui n'a pas vu le soleil.
Oui.
Puis je dis, regardez ça, ça vieillit plus vite et ce vieillissement-là est inutile. Et c'est une belle porte d'entrée pour dire aux gens, ben la peau peut vieillir plus vite ou moins vite, mais c'est la même chose pour le corps. Il peut vieillir plus vite ou moins vite selon les choix qu'on fait tout au long de notre vie.
Oui. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'exprime ou ce que tente d'exprimer votre titre, qui est assez accrocheur, comme je le disais, « Vieillir est inutile et dangereux ». C'est que si on met en action ces outils de prévention, on peut tenter de contrer le vieillissement.
Oui, ça. Puis ça, je dirais que c'est probablement le message le plus important. Puis c'est un message aussi qui est encourageant parce que ça montre aux gens qu'on peut, en faisant les bons choix, retarder l'apparition du vieillissement, qui est des pertes de fonction, retarder l'apparition des maladies liées à l'âge, puis aussi diminuer les risques de cancer à long terme. Donc ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment le message important, puis le message encourageant de l'ouvrage.
Oui. Ce qui est important, je pense, de retenir et de saisir, c'est que l'on n'est pas tous égaux devant le vieillissement. Quels sont les facteurs qui jouent contre nous ou pour nous, Dr Minier?
Bien, il y a beaucoup de facteurs. Si on parle, bon, par exemple, en premier, on peut s'attarder, est-ce que nos gènes sont bons pour le vieillissement? Hein, des fois, on voit des gens ou des familles où tout le monde a l'air de vivre 90 ans, 95 ans, puis de maintenir leur santé. Et il y a vraiment des familles, il y a des gènes identifiés qui sont associés au maintien de la santé à long terme et qui est associé aussi à la longévité. Mais pour la plupart des gens, pour la plupart de nous, on pense que c'est à peu près 25 % qui est déterminé par l'élément génétique et il reste donc un 75 % sur lesquels on peut travailler pour essayer de maintenir notre santé.
Oui, et c'est beaucoup ça quand même, hein, 75 %, on se rend compte qu'on est des acteurs très importants dans notre processus de vieillissement.
Oui, on est des acteurs importants pour nous, puis moi, la façon dont je vois ça, on est des acteurs importants pour nous, puis on est des acteurs importants pour nos proches aussi. Puis si on a une famille, c'est important d'implanter ça assez tôt, parce qu'on vieillit. C'est sûr que quand on est jeune, tout notre système fonctionne bien, mais tranquillement, il y a des mécanismes qui commencent à moins bien fonctionner. Mais on commence tranquillement à accumuler des dommages à nos cellules avec les années, donc il faut s'en occuper assez jeune.
Oui, et ça, vous en parler. Et il y a quand même beaucoup de bouquins, beaucoup de publications sur le vieillissement en ce moment, Dr Minier, mais peu d'entre eux expliquent aussi bien, de façon aussi accessible, le processus de vieillissement et comment ça s'attaque à nos cellules. Bon, vous parlez du processus d'oxydation aussi, entre autres choses, on va y revenir, mais il y a quand même une grande part allouée à ces cellules qui ont un impact sur notre processus de vieillissement.
Oui, mais c'est sûr que, bon, effectivement, le vieillissement, ça passe à travers les cellules. Nos cellules, hein, c'est tous des petits organismes vivants, puis on a plusieurs types de cellules dans notre corps qui peuvent vieillir un peu différemment. Mm-hmm. Et donc, c'est important de les entretenir parce qu'il y a des cellules qui sont avec nous toute notre vie.
Oui.
Alors, je pense, par exemple, à nos neurones dans le cerveau. Nos neurones, oui, ils s'en fabriquent des nouveaux, mais les neurones qu'on a, qui servent à tenir la mémoire, à faire notre mémoire, sont les mêmes depuis qu'on est jeune. Donc ça, c'est un extrême, ce sont là toute notre vie. Il y a à l'autre extrême, comme la peau, par exemple, hein, qui est un tissu qui se renouvelle là, à toutes les 4 à 6 semaines. La peau est renouvelée au complet, mais ce renouvellement-là est assuré par nos cellules souches. Donc à la base de l'épiderme, il y a des petites cellules qui sont les mêmes depuis notre naissance qui assurent le renouvellement de cette peau-là. Et ces types de cellules-là, qui sont importantes, donc que ce soit les neurones qui sont avec nous, que ce soit nos cellules qui assurent le renouvellement des tissus, il faut les maintenir en santé, il faut s'arranger pour ne pas les endommager, pour garder notre santé à long terme.
Qu'est-ce qui endommage ces cellules? J'aurais tendance à dire le soleil d'entrée de jeu?
Ben, le soleil, c'est sûr que c'est un élément qui endommage les cellules. Si on regarde la peau,
ouais,
il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'endommager. Donc, en plus du soleil qu'on connaît bien, ben, il y a le tabagisme, c'est quelque chose de bien connu. Mais il y a aussi des choses qu'on connaît moins, des fois un peu plus sournoises. On parle beaucoup du sucre. Ben, quand le taux de sucre monte beaucoup dans notre sang, ça favorise les dommages aux cellules. On peut penser à la pollution atmosphérique aussi, qui sont des éléments qui viennent endommager nos cellules.
Est-ce qu'il y a une façon d'entretenir nos cellules pour qu'elles soient en santé?
Bien, il y a plusieurs façons de les entretenir. Disons que, d'abord, les cellules ont naturellement un processus de réparation. Hein? Donc, les façons d'entretenir, en gros, là, c'est de faire attention pour ne pas les endommager. Ça, c'est la première chose. Donc, éviter les facteurs qu'on connaît.
Ouais.
Donc, il y en a qui sont évitables, mais il y en a qui ne sont pas tellement évitables. Hein? Donc, des fois, il faut surtout agir sur le processus pour essayer de prévenir un peu. Et ce qui endommage les cellules, on parle de plusieurs choses, mais on peut parler de l'inflammation, on peut parler du stress oxydatif qui cause des dommages aux cellules. Puis, ce qui est particulier, c'est que nos cellules, il y a un petit mécanisme de base là, qui explique, qui relie le vieillissement, les maladies liées à l'âge et les cancers. En fait, ce mécanisme-là, il est assez simple. Ce qui se passe, c'est que le corps, lui, quand la cellule elle est endommagée, il peut la réparer. Mais parfois, la cellule n'est pas réparable. Et là, le corps, lui, il veut éviter que la cellule meure, puis il veut éviter, quand la cellule est réparable, elle est à risque de devenir cancéreuse. Donc, il veut éviter ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le corps? Il va dire, OK, toi, tu es rendue dangereuse comme cellule, tu es à risque de devenir cancéreuse, je vais t'arrêter là, je vais te mettre en sénescence. Hein? Fait que là, la cellule, elle ne se renouvelle plus, elle est protégée contre le cancer, donc ça, c'est bien, mais ça a deux petits inconvénients, la sénescence. Un, on vient de perdre une cellule qui fabrique du tissu. Là. Donc ça, une cellule, deux cellules, plusieurs cellules. Donc, notre tissu commence à moins bien se fabriquer. Première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que ces cellules-là qui deviennent sénescentes commencent à créer un petit peu d'inflammation dans les tissus. Mm-hmm. Et ce que ça fait, que, là, l'inflammation se crée, puis certaines maladies liées à l'âge s'installent à cause de ça. Donc, nos pertes de fonction, les maladies liées à l'âge et même certains cancers sont toutes reliées aux dommages cellulaires.
Oui. Et ça m'amène à une réflexion que vous exposez dans Vieillir est inutile et dangereux, Dr Minier, c'est que la maladie ou le vieillissement, ça s'installe de façon assez sournoise, c'est-à-dire qu'on ne le ressent pas, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de sensation. Ça s'installe tranquillement au fil des années. Et souvent, on arrive chez le bureau, dans le bureau d'un médecin et parfois, bien, on est déjà dans un processus soit de maladie ou soit d'inflammation ou sans dire qu'il est trop tard, là, il y a un processus qui est déjà entamé.
Oui, c'est ça. Puis ça, je pense que c'est une autre chose que je pense que qu'on doit retenir. Puis, en fait, il faut le savoir, il faut le conscientiser pour se motiver à prendre des bonnes habitudes. Parce que je reviens à la peau, par exemple. Hein, pendant toutes les années où les gens ont la peau s'est exposée au soleil, il n'y a pas de symptômes. Il n'y a pas plus de symptômes dans la peau exposée au soleil que dans la peau pas exposée. Et là, on se ramasse au bout de 20 ans, 25 ans. Oups, il y a des symptômes de vieillissement sur la peau. J'ai rien senti. Et dans le corps, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour agir. Et c'est pour ça que c'est important de faire de la conscientisation, de prendre soin avant que les symptômes arrivent. Parce que rendu au moment où les symptômes s'installent, souvent, nos moyens sont plutôt palliatifs pour intervenir.
Oui. Vous parlez également de ce qu'est l'oxydation, de ce qu'est l'inflammation. Ce sont des facteurs du vieillissement, parfois d'un vieillissement prématuré, de maladie également. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que, encore une fois, on n'aborde pas souvent ces grandes questions-là et surtout pas d'une façon qui est bien vulgarisée.
Oui, c'est ça. Bien, c'est pas toujours facile à vulgariser non plus. Il y a plusieurs éléments qui vont contribuer au vieillissement du corps. J'ai ressorti 5 principaux éléments. Mais entre autres, l'oxydation puis l'inflammation, c'est deux facteurs assez majeurs dans le vieillissement. Si on parle d'oxydation, par contre, hein, par exemple, on entend beaucoup parler d'antioxydants, prendre des antioxydants. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le corps, c'est toujours un équilibre. Hein? Et le processus d'oxydation, c'est normal pour se défendre, c'est normal pour le fonctionnement cellulaire. Le problème vient du fait qu'il y ait, de temps en temps, un excès d'oxydation. Et ça cause ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et le stress oxydatif, c'est un facteur qui endommage les cellules. Donc, cause de stress oxydatif, on a parlé tantôt des rayons ultraviolets, de la fumée de cigarette, de la pollution, c'est des facteurs qui causent des stress oxydatifs. Tout ça, ça crée un dommage aux cellules. Et puis, si on est capable d'éviter ça, d'une part d'agir sur la cause, et l'autre chose, c'est d'être capable de le contrer, le stress oxydatif.
Ouais.
Et les meilleures façons de contrer le stress oxydatif, c'est en activant nos propres antioxydants. On le fait par l'alimentation, on le fait par l'activité physique, on peut le faire par un bon sommeil. C'est les meilleures façons. Et là, si on dit, je vais prendre des antioxydants, des grosses doses d'antioxydants pour contrer ça, c'est pas certain que c'est la bonne approche. Parce qu'il y a des études qui ont montré que si on prend des grosses doses d'antioxydants, parfois, on va empêcher nos propres mécanismes d'antioxydants de s'activer. Donc, je pense que c'est préférable d'agir avec nos bons choix que d'aller agir avec un supplément.
Avec ce que l'on trouve dans le frigo en mettant nos souliers de course. À la page 73, Dr Minier, vous parlez de moyens que j'appellerais alternatif, et je trouvais ça très intéressant, notamment venant d'un médecin, d'un scientifique, la pleine conscience, la méditation, la respiration, ce sont des outils aussi pour se calmer et contrer le stress oxydatif.
Oui, et puis ça contre le stress oxydatif et l'inflammation. Puis tu sais que c'est vrai que quand on est médecin, on a une formation scientifique, et pour moi, c'est très important de rester scientifique, et ces éléments-là, Il y a des études qui démontrent ça. Par exemple, quelque chose d'aussi simple, comme tu viens de parler, Marianne, d'activer notre système parasympathique. À notre système nerveux parasympathique, c'est celui qui s'active quand on est calme, quand on est détendu. Mais il y a une étude qui a été faite, c'était faite même par des chercheurs de l'Université de Montréal, qui a montré que lorsqu'on active ce système-là, on va directement agir sur un certain type de globules blancs, qu'on appelle des macrophages. On va directement agir sur ça et les recalmer, diminuer l'inflammation. Wow. Donc ça, c'est intéressant. Puis une des façons d'activer ce système-là, ben, c'est par la respiration. Quand on respire calmement par le ventre à 6 respirations par minute pendant une quinzaine de minutes, ben, on a montré qu'on était capable d'activer ce système-là et on l'active. On travaille sur notre inflammation. Donc il y a plusieurs moyens, mais ça, c'en est un qui est simple et qui est bien démontré.
Oui. Un autre aspect, une donnée dont on commence à entendre parler, mais qui pour moi me semble plutôt innovatrice ou encore plutôt particulière, c'est-à-dire cette donnée qui nous parle de restreindre notre apport calorique. Vous n'êtes pas le premier à le mentionner, mais de plus en plus, ça vient sur les lèvres de spécialistes de la santé. Pourquoi ça serait un avantage dans ce processus de vieillissement?
Ah ben ça, écoute, si tu veux, je peux te remettre dans un petit contexte historique qui va aider à comprendre.
Oui.
Dans notre société, là, la nourriture est toujours accessible.
Oui.
Mais dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des êtres vivants, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des périodes où il y avait des manques de nourriture parfois. Ces manques-là de nourriture dans l'histoire du vivant, ce que ça a fait, c'est que ça a sélectionné un espèce de petit mécanisme de protection. Ce mécanisme-là, il s'appelle l'autophagie, puis il est présent même dans les algues unicellulaires. Ça fait des milliers d'années que c'est là. Alors, l'autophagie, c'est un système qui va s'activer quand nos cellules manquent un peu d'énergie, c'est dans chacune de nos cellules, et ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer les déchets qui se trouvent à l'intérieur de nos cellules. Ça va leur permettre de survivre plus longtemps. Et la façon d'activer ce mécanisme-là, bien, c'est de manquer un peu d'énergie, un petit peu, pas nécessairement longtemps, puis de temps en temps. Et c'est démontré chez les animaux que ce système-là va prolonger la survie, va retarder les maladies liées à l'âge.
Mmh.
Chez les humains, on a des études à court terme. Donc, on sait que si on va manquer de calories, un petit jeûne là, de 16, 18 heures, 20 heures, va activer certains mécanismes qui vont favoriser la bonne santé. Il nous manque cependant certaines études. Hein. En fait, chez les animaux, il y a des tests qui permettent de voir l'autophagie s'activer. Ces outils-là ne sont pas encore disponibles chez les humains, mais dans quelques années, on va avoir, pour les êtres humains, on va être capable de voir l'autophagie s'activer. On va être capable de démontrer chez des humains que c'est associé au maintien de la bonne santé à long terme. Et ça, c'est un thème qui est très intéressant à suivre parce
oui.
que je suis sûr qu'on va entendre parler de ça dans les prochaines années.
Ah oui, des recherches à suivre, en effet. Et vous êtes assez audacieux dans votre approche, Dr Minier, parce que vous proposez de jeûner, que ce soit 12 heures, comme vous le disiez, 24 heures, une fois par semaine. Est-ce que c'est sécuritaire de le faire pour des gens qui sont, bon, déjà en âge avancé, par exemple?
Bon, et donc ça, c'est sûr que bon, dans le livre, il y a une liste de contextes dans lesquels c'est pas sécuritaire. Hein. C'est sûr que si on est en
oui.
croissance, si on récupère d'une maladie, si on a à prendre des médicaments à heure fixe qui doivent être prêts avec les repas, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis je dirais si on est malade ou si on est sous notre poids santé, c'est préférable de le demander à notre médecin. Mais de façon générale, il faut dire que ça fait des milliers d'années que les humains font ça, jeûner de temps en temps pour des raisons religieuses ou philosophiques.
Oui.
Donc, un petit jeûne, à mon avis, c'est assez sécuritaire dans la mesure où on n'a pas de contre-indication particulière. Donc, de dire, par exemple, je vais pas déjeuner ce matin. Donc, en général, c'est bon de prendre un bon déjeuner et c'est associé à une bonne santé à long terme, mais si une fois par semaine, une fois par deux semaines, je dis, bon, je déjeune pas un matin ou je déjeune pas et je ne dîne pas non plus, je pense que c'est quelque chose qui s'intègre bien.
Mm-hmm.
On peut prendre une tisane, une infusion, un bâtonnet de céleri qui va pas faire en sorte que d'augmenter les calories, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui peut facilement s'intégrer.
En terminant, le temps file, il nous reste peu de temps, Dr Minier, c'est passionnant cette discussion. Juste juste un petit mot pour... Parce que vous êtes dermatologue et je trouve que c'est important dans cette approche de l'éternelle jeunesse, du Botox, comme je le disais tout à l'heure, de la chirurgie plastique, de vouloir paraître jeune le plus longtemps possible. Comment on reste vigilant par rapport à cette industrie qui nous promet là, d'avoir l'air de 20 ans toute notre vie là?
Bon, c'est sûr que il y a des techniques, hein, il y a des lasers, il y a des techniques de chirurgie qui fonctionnent bien pour essayer d'enlever un peu de signes de vieillissement. Mais ça enlève les signes de vieillissement.
Ouais.
Ça rend pas vraiment, ça rajeunit pas vraiment nos cellules. Puis avec la population qui vieillit, je vois souvent des annonces qui vont nous vanter le rajeunissement. Mais je pense que la chose la plus importante, un, c'est d'être conscientisé. C'est de comprendre que le vieillissement, c'est vraiment quelque chose de complexe et que c'est pas une pilule qui va réussir à agir sur le vieillissement. Je dirais même que de nous vendre une pilule, ça risque même de nous déresponsabiliser de prendre des bonnes habitudes. Je dirais même, à ce niveau-là, vaut mieux éviter ça. Et c'est les bonnes habitudes vraiment qui vont avoir un effet de fond et qui vont avoir un impact à long terme.
Ouais, la meilleure façon, la meilleure approche, c'est de l'accumulation de saines habitudes de vie et ce, le plus tôt possible dans notre parcours. Docteur Daniel Minier, vous êtes docteur médecin dermatologue du côté de Sherbrooke, affilié à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, pour être plus précis, auteur de ce nouveau livre « Vieillir est inutile et dangereux », un livre que j'ai trouvé passionnant, 120 quelques pages, ça se lit très bien, publié chez Carte Blanche. C'était un plaisir de vous parler.
C'était un plaisir aussi, Marianne. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Maureen O'Neill, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Et là, pour nous parler de cette initiative pan-canadienne qui vise à réduire l'utilisation inappropriée de médicaments, des antipsychotiques chez les aînés dans les établissements de soins de longue durée, les CHSLD. C'est une étude qui a été menée dans 56 CHSLD de 7 provinces. Le Québec n'y est pas, évidemment. Ce sera notre première question, Maureen O'Neill. Pourquoi le Québec n'a pas participé à cette vaste étude?
Parce qu'on a travaillé surtout avec les provinces qui utilisent un système qui s'appelle InterRI. En anglais, c'est Resident Assessment Information. Alors, pour avoir une base de données qui était consistante partout, c'était nécessaire. Et le Québec utilise un autre système qui n'est pas le même.
OK. Pourquoi donne-t-on...
Mais en effet, ce n'est pas juste une étude, c'était un engagement des foyers qui voulaient faire les changements déjà dans leur politique. Alors, c'était surtout une évaluation de changement dans la vraie vie. Ce n'était pas une étude.
OK. Et Maureen, pourquoi à la base, donne-t-on tant de médicaments antipsychotiques aux personnes aînées dans les CHSLD?
On a, pourquoi? Mais en effet, les foyers les ont utilisés pensant que c'était une façon de réduire les comportements difficiles comme la violence verbale ou même violence physique. Mais en effet, dans la réalité, si on lève des médicaments, on trouve en effet ce qui est vraiment opposé. Mm-hmm. Il y a diminution des violences verbales ou physiques ou les différents comportements difficiles. Et aussi, ce qui est très important, il y a moins de chutes.
Oui. Et on le sait, à un âge plus avancé, des chutes, ça a de nombreux impacts, autant sur la qualité de vie de la personne, sur sa santé également, sur tous les coûts de soins là, qui peuvent entourer le suivi et l'accompagnement par la suite.
Oui, exactement. C'est très, très dangereux. Et aussi, pour les âgés, quelquefois, une chute est le commencement de la fin.
Oui, voilà.
Alors, si on casse une hanche, quelque chose comme ça, c'est très, très difficile de se remettre après.
Oui. On a peu de temps, Maureen O'Neill, mais je veux comprendre pourquoi cette initiative est venue du côté de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé.
C'est parce qu'il y a quelques années, un de nos équipes qui font partie d'un programme qui s'appelle Force, où le Québec est très, très bien représenté, une équipe de Manitoba a commencé à travailler avec un système d'analyse des résidents qui était vraiment visé sur qui est cette personne devant nous.
Ouais.
Mm-hmm. Au lieu de juste commencer à prescrire comme toujours, on a essayé de définir si c'est quelqu'un qui aimait la musique, aimait le jardinage, aimait les animaux, mm-hmm. et on a remplacé les médicaments avec les programmation qui était vraiment visée sur la personne et on a eu tant de retombées positives et c'était bien évalué qu'on a décidé de diffuser dans les autres institutions qui s'intéressaient à travailler avec nous parce que c'est ça qu'on fait. On diffuse les innovations bien évaluées partout dans le Canada.
Oui. Et pour le mieux-être des personnes âgées et bien sûr de leurs familles, parce que les chiffres sont très parlants en ce sens, c'est que oui, d'une part, lorsqu'on diminue les médicaments antipsychotiques, bien, il y a une amélioration de la qualité de vie des résidents, mais également de leurs familles, et ça, c'est pas à négliger. Maureen O'Neill, j'aurais aimé avoir plus de temps avec vous, mais malheureusement, le temps nous a fait la guerre aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes présidente de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et on glissera toutes les indications quand même sur notre site pour que nos auditeurs puissent en savoir davantage sur cette observation de votre part. Merci, Maureen.
Merci.
Jean-Sébastien, la liberté derrière sa console, c'était Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve demain 14h. Portez-vous bien.